Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Ravie de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence, semaines un peu chamboulées, aménagées, en raison des nouvelles mesures prises à cause du Covid-19. Mais s'il est bien un domaine qui ne s'arrête que tard, c'est celui de la justice. Et ces dernières semaines ont été marquées par quelques décisions fracassantes, et notamment celles relatives à l'affaire Halimi. Alors, puisque c'est une chronique juridique, tentons ici de raisonner en droit, voulez-vous ? Rappelons les faits. Voyons le droit applicable à la matière et tentons d'en tirer quelques conclusions. Parce que c'est ça le raisonnement juridique. Bien loin du tribunal, des réseaux sociaux et des bords de comptoir, prendre les faits, voir le droit applicable et en tirer une conclusion, une solution, une décision. Et si le droit ne paraît plus adapté à l'époque ou à la société, alors réfléchir à son évolution. Mais ça relève ensuite peut-être davantage du domaine politique. Alors, commençons donc par rappeler les faits. Le 4 avril 2017, vers 4h du matin, rue de Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement de Paris, une femme de 65 ans, juive orthodoxe, Sarah Halimi, vivant seule, est surprise dans son sommeil par son voisin musulman, Kobili Traoré, qui, enragé après une dispute, a pénétré par effraction chez elle via le balcon des Diarra, ses voisins séquestrés et barricadés dans une pièce, d'où ceux-ci vont d'ailleurs téléphoner à la police. L'homme de 27 ans frappe Sarah Halimi d'abord à l'aide du combiné de son téléphone, puis l'entraîne jusque sur son balcon et la roue de coup de poing en l'insultant et en la traitant notamment de Cheytan, criant une dizaine de fois à la Akbar et avec encore d'autres insultes proférées et sourates du Coran récitées. Après avoir tenté de l'étouffer, il crie au témoin qu'elle va se suicider et la jette évanouie du haut de son troisième étage. « J'ai tué la Cheytan du quartier », va-t-il crier, le démon en arabe. Cet épisode dure de 20 à 30 minutes, et je vous l'accorde, les faits sont assez insoutenables. Alors, qu'apprend-on de Kobili Traoré, le meurtrier, lecture d'extrait du dossier. Kobili Traoré habite sporadiquement avec sa famille au deuxième étage du HLM où Sarah Halimi occupe un appartement au troisième, à côté d'une autre famille malienne, amie des Traoré. Les enfants Traoré sont au nombre de 6. Le père de Kobili meurt quand il a 8 ans. Et depuis, celui-ci vit une enfance chaotique, changeant fréquemment d'internat. Il arrête les études à 16 ans et tombe dans la délinquance avec un casier judiciaire qui comporte une vingtaine de condamnations pour violence, vol, usage ou trafic de stupéfiants, outrage, port d'armes et de multiples mains courantes. Mais dans son dossier, aucune évocation d'un trouble psychique particulier. Kobili Traoré est un fort consommateur de cannabis depuis l'adolescence. Un délinquant toxicomane, dira le psychiatre, mais depuis le début de l'année 2017, il utilise apparemment du haschich plus concentré pour s'apaiser et mieux planer, selon ses termes. Il fréquente parfois la mosquée Omar, et d'ailleurs le jour du meurtre, il y prie à 2 reprises. Selon sa famille, Traoré n'était pas dans son état normal dans les quelques jours qui ont précédé le drame. Il est d'ailleurs intercepté dans la rue puis relâché par des policiers qui remarquent son comportement étrange à jeter des coups d'œil derrière lui. Il va plus à la mosquée, il consulte un exorciste, il pense en effet que son beau-père veut l'empoisonner ou le marabouter. Il invective l'aide-soignante d'origine haïtienne de sa sœur handicapée, l'accusant de pratiquer des rituels vaudous, puis la congédie au motif qu'elle n'est pas musulmane. Et le soir, à la veille des faits, il se serait endormi chez son ami Kader, devant le film The Punisher, après avoir fumé du cannabis. Alors, après le meurtre, le 2e district de police judiciaire de Paris est saisi de l'enquête et une information est ouverte pour homicide volontaire. Traoré est interpellé sans résistance, placé en garde à vue. et une analyse toxicologique révèle la présence de cannabis dans son sang. Il blesse tout de même 2 policiers sur les 8 nécessaires à le maîtriser. Le médecin juge son état psychiatrique incompatible avec la garde à vue et le fait interner sans qu'il ait été entendu par la police. Dans cet institut, il trouve le moyen de se procurer du cannabis pour fumer en cachette. Le 7 avril 2017, le procureur déclare que ce drame, en l'état de l'enquête, n'est pas un meurtre antisémite, mais que cette piste sera aussi explorée. Dans le même mois, la juge d'instruction demande l'examen psychiatrique et médico-psychologique de Kobili Traoré, ainsi qu'une étude de l'entier dossier qui seront rendues en juin 2018. En septembre 2017, le psychiatre mandaté, dans son rapport concernant Traoré, écarte l'abolition du discernement du mis en examen dans son contexte de, je cite, « délire persécutif polymorphe à thématique mystique et démonopathique ». Mais il conclut à son altération, due notamment à une bouffée délirante aiguë, intitulée également « trouble psychotique bref », sans écarter la dimension antisémite. Et vous verrez que la distinction, abolition, altération, est importante en droit pénal, j'y reviendrai. Au vu de ce rapport et des premiers éléments de l'enquête, le même mois, le parquet de Paris demande à la juge chargée de l'affaire que le caractère antisémite soit retenu. Le 6 juillet 2018, on apprend par Le Parisien qu'une nouvelle expertise est mandatée le 24 avril 2018 par les juges d'instruction avec 3 psychiatres, dont Paul Bensussan et dont le rapport, rendu le 11 juin, conclut à l'abolition du discernement de Kobili Traoré au moment des faits, ainsi que du contrôle de ses actes, ce qui impliquerait donc que Kobili Traoré serait irresponsable pénalement. Les experts, observant que le taux de THC, donc la molécule du cannabis, étant modéré dans le sang de Kobili Traoré le jour du drame, et que ses idées délirantes ont persisté longtemps après l'arrêt de l'intoxication, ils estiment donc que la prise de cannabis n'a fait qu'aggraver un processus psychotique qui était déjà amorcé. Le 10 juillet 2018, le suspect est entendu par le juge d'instruction et reconnaît les faits, tout en niant toute motivation antisémite. Il dira « Je me sentais comme possédé, je me sentais comme oppressé par une force extérieure, une force démoniaque. » Face à 2 expertises divergentes, en mars 2019, une nouvelle contre-expertise est ordonnée qui écarte la possibilité d'une simulation et qui conclut à une bouffée délirante aiguë d'origine exotoxique, qui a conduit à l'abolition du discernement de Kobili Traoré. Le 17 juin 2019, le parquet de Paris demande le renvoi aux assises de Traoré pour meurtre à caractère antisémite, et dans leur ordonnance rendue le 12 juillet 2019, les juges d'instruction chargés de l'enquête estiment qu'il y a des raisons plausibles de conclure à l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré. Saisi d'un appel du parquet et suite à une audience du 27 novembre, le 19 décembre 2019, la Cour d'appel de Paris conclut à une irresponsabilité pénale. Le discernement de Kobili Traoré étant aboli au sens de l'article 122-1 du Code pénal, il ne peut donc pas être jugé pour ce crime dont la Cour confirme les motivations antisémites. La Cour d'appel de Paris ordonne également son hospitalisation assortie de mesures de sûreté pour 20 ans. Traoré est donc enfermé. Le 3 mars 2021, devant la Cour de cassation, les parties civiles demandent de retenir la responsabilité du jeune homme compte tenu de son intoxication volontaire. Tandis que la défense et l'avocat général défendent la nécessité de maintenir une distinction entre l'ivresse causée par la prise volontaire de psychotropes, alcool, cannabis, aux effets prévisibles, et le trouble psychiatrique inattendu qui abolit le discernement. Autrement dit, la partie civile demande l'inclusion d'une nuance qui n'existe pas dans le texte actuel. La Cour de cassation va considérer que les dispositions de la loi actuelle ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement, et elle valide donc les décisions antérieures sur le caractère antisémite du meurtre. Elle confirme la décision de la Cour d'appel, et cette décision ne remet donc pas en cause l'hospitalisation psychiatrique ordonnée par la justice, ni le caractère antisémite du crime. Alors, que nous dit précisément l'arrêt de la Cour de cassation? Je le cite. Selon l'article 122-1 du Code pénal, la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable. Les dispositions de ce texte ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition du discernement. Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour retenir l'existence d'un trouble mental ayant aboli le discernement de la personne mise en examen, retient que celle-ci a agi sous l'empire d'un trouble psychique constitutif d'une bouffée délirante d'origine exotoxique causée par la consommation régulière de cannabis qui n'a pas été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. Si vous lisez ça posément, vous comprenez que les raccourcis opérés dans les médias disant qu'aujourd'hui on peut prendre du cannabis et assassiner quelqu'un tranquille sont des raccourcis grossiers. Il va falloir y mettre un petit peu plus de nuance. Je sais que c'est pas la tendance en ce moment, mais quand même. Si le sujet de l'irresponsabilité pénale vous intéresse et que l'affaire Halimi vous interroge, je peux que vous conseiller la lecture de la thèse d'Elsa Clerget à l'Université de Lorraine et qui s'intitule « L'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux en France » à propos de 88 sujets auteurs d'infractions ayant bénéficié d'un prononcé d'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux. C'est aux éditions Sciences du Vivant, c'est paru en 2015. Alors dans cette thèse, elle fait notamment un rappel historique de l'évolution de la responsabilité pénale et elle nous dit « Les législateurs des grandes civilisations d'autrefois ont presque toujours légiféré dans le sens de l'irresponsabilité pénale ou de la responsabilité atténuée du sujet aliéné. Le principe était de soustraire à la peine capitale la personne dont la folie était totalement avérée, un vrai fou ne devant pas être puni de mort. Il en était ainsi en droit romain, en droit de la Chine impériale, en vieux droit anglo-saxon, en droit canonique médiéval et en ancien droit français. L'excuse légale de démence a également été trouvée chez Platon lorsque l'auteur du crime est soit un fou, soit un homme qui est si bien en proie à la maladie, tellement accablé par l'excès de la vieillesse, ou à ce point tombé en enfance, qu'il n'y a aucune différence encore à faire entre lui et les fous proprement dit. Autrement dit, on n'a jamais jugé les fous de la même façon que les êtres sains d'esprit. Et pourquoi ? Eh bien parce que se pose la question de la volonté du discernement. Alors la thèse d'Elsa Clerget, elle est d'autant plus intéressante que lorsqu'elle fait cette thèse, elle est étudiante doctorante en psychiatrie. Et donc on a vraiment aussi le volet médical, même si elle a fait un magnifique travail d'historique et de rappel et de concision sur le volet juridique. Elle nous rappelle justement ensuite que le code pénal napoléonien de 1810 définit formellement le cas d'irresponsabilité pénale à travers son article 64, qui dit « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action ou qu'il a été poussé par une force à laquelle il n'a pu résister. » Alors, on est là sur des notions abstraites pour les juristes qui nécessitent de plus en plus un éclairage spécialisé. Et clairement, le concours de l'expert aliéniste puis psychiatre est inhérent à ce texte et apparaît avec ce texte. La loi du 25 juin 1824, puis celle du 28 avril 1832, ont ouvert la possibilité au juge de reconnaître des circonstances atténuantes dans certains crimes et délits, et d'adapter en conséquence la peine aux circonstances de l'espèce et à la personnalité et aux motivations de l'accusé. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation de 1885 qui a posé explicitement le principe de l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement. Enfin, le 20 décembre 1905, le garde des Sceaux Joseph Chaumier adresse aux parquets généraux une circulaire qui pose le principe de l'atténuation de la peine pour les personnes reconnues responsables de leurs actes tout en présentant un trouble mental. Par la suite, faisons un bond dans le temps, l'article 345 du Code de procédure pénale, 1959, a institué de nouvelles questions à l'expert, le magistrat étant libre de les proposer sous cette forme ou différemment. L'examen du sujet relève-t-il chez l'inculpé des anomalies mentales ou psychiques ? L'infraction qui lui est reprochée est-elle ou non en rapport avec de telles anomalies ? Le sujet présente-t-il un état dangereux ? Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la sanction pénale, elle a quand même un but, c'est de réintégrer la personne dans la société ensuite, ça on l'oublie un peu vite. Et le sujet est-il curable ou réadaptable ? Faisons encore un autre bond dans le temps. Et avec la promulgation de la loi du 22 juillet 1992 qui porte réforme des dispositions générales du Code pénal et qui signe l'acte de naissance de l'article 122-1 tel que nous le connaissons et qui ne sera appliqué qu'à partir de mars 1994. Que nous dit ce texte ? Alinéa 1 n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Alinéa 2. La personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Vous voyez donc que l'évolution sur les responsabilités pénales par et dans les textes a pris de nombreuses années et qu'on ne peut aujourd'hui vouloir réformer celle-ci sous le coup de l'émotion et parce qu'il serait une loi de circonstance. De mon point de vue, quand on voit un président de la République critiquer ouvertement un arrêt de la Cour de cassation et annoncer rapidement un nouveau projet de loi, on se dit d'abord qu'il est bon de rappeler la séparation des pouvoirs. On se dit ensuite qu'un petit tour sur les bancs de la fac de droit lui aurait pas fait de mal, histoire d'avoir quelques notions et puis sur aussi de faire un petit peu d'histoire du droit, parce que vous voyez que ce n'est pas, absolument pas un domaine qui a évolué à coup de claquement de doigts. Et puis on se dit aussi que c'est le genre de sortie médiatique qui donne du poids au tribunal populaire et à celui de Facebook et qui finalement la première chose dont la justice est malade, c'est du manque de respect qui lui est dû. Parce que ça, je l'ai beaucoup lu ces derniers jours sur les réseaux et dans les médias. La justice est malade, il faut la soigner. Il faut déjà surtout la respecter quand elle est rendue, surtout sur la base de nos textes légaux. Parce qu'en effet, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Cour de cassation, c'est le juge du droit. Et que son pouvoir et sa mission sont de contrôler si, dans une affaire, la loi, telle qu'elle existe, a été appliquée correctement. Et ici, qu'en est-il ? 3 expertises psychiatriques ont été mandatées en application des dispositions du Code pénal. Les 2 premières étaient discordantes, donc il y en a eu une 3e. Et qu'en est-il sorti ? Il a été conclu à une abolition de discernement pour une cause exotoxique, donc pas née de la consommation de cannabis, que celle-ci aurait pu seulement éventuellement aggraver. Il n'a donc pas été évoqué une altération du discernement qui aurait permis de retenir la responsabilité pénale, mais d'amoindrir la sanction. On a retenu une abolition du discernement. Autrement dit, avec ou sans pétard, Kobili Traoré ne disposait pas psychiatriquement de son libre arbitre. Il était fou. Et donc vraisemblablement, même sans cannabis, il aurait fini par commettre un acte irréparable. Ce que soulevait la partie civile, et ce que réclament les manifestations un peu partout aujourd'hui, c'est en fait une véritable réécriture du texte. C'est considérer que la consommation de stupéfiants comme le cannabis doit empêcher de retenir l'abolition du discernement et donc les responsabilités pénales. L'intoxication est volontaire, donc le prévenu savait ce qu'il faisait en s'intoxiquant, donc il savait nécessairement ce qu'il allait faire en suivant, et il doit être considéré comme pénalement responsable. Mais encore faudrait-il pour cela, outre le fait que c'est une totale réécriture du texte, que l'intoxication soit la cause de l'abolition du discernement. Et dans ce dossier, les psychiatres ont retenu qu'il y avait une démence autre de toute façon, et que le cannabis n'avait pu qu'éventuellement l'aggraver ou l'accélérer. Mais il n'est pas la cause de tout. Donc, à mon avis, la question de l'intoxication volontaire n'est pas la bonne question. Et vous voyez pourquoi je vous dis que les raccourcis qu'on peut lire sur les réseaux sociaux sont grossiers. Mais comme le disait très justement Schopenhauer, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Et là, on en est dans la parfaite illustration. Or, il est essentiel de réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas nier l'antisémitisme existant, ce n'est pas nier l'augmentation galopante de la consommation de stupéfiants et de cannabis en France et les questions qu'elle pose, notamment en termes d'évolution du droit, mais réfléchir, c'est refuser de satisfaire à la vindicte populaire et prendre dans l'urgence une loi de circonstance qui viendrait satisfaire à la demande, s'adapter éventuellement à une affaire, en oubliant les conséquences qu'elle peut avoir dans d'autres. Et la loi, en toute hypothèse, n'est pas là pour satisfaire à une demande, un intérêt individuel ou érigé en principe, un cas particulier. Donc, prenons le temps, bien sûr, débat, réflexion, échange, peut-être construction d'un nouveau texte, mais pas sous le coup de l'émotion. Voilà, chers auditeurs, une chronique un peu plus longue aujourd'hui, mais qui me semblait importante. Avoir un avis, discuter, échanger, débattre, toujours, c'est bien. Savoir de quoi on parle pour avoir une réflexion pertinente, ou du moins essayer, c'est mieux. Si vous souhaitez nous réécouter, retrouvez cette chronique ce soir à 23h, et aussi mercredi matin à 10h, et bien sûr, dans la très belle bibliothèque et très fournie bibliothèque de podcast d'Esprit Occitanie. À très bientôt.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing.
Bonjour et soyez les bienvenus dans la Casa de Ebel. Pour cette nouvelle chronique, je vais vous parler d'un sujet dont je ne vous ai absolument jamais parlé, les séries télé. Plus précisément, une série télé que vous avez pu voir pour ceux qui étaient devant leur télévision jeudi soir sur TF1 et qui porte le nom de HPI. Que veut dire HPI ? Eh bien, vous le voyez en sous-titre de l'émission, cela signifie « haut potentiel intellectuel ». Qu'est-ce que signifie « haut potentiel intellectuel » ? Cela signifie que la personne qui est qualifiée de haut potentiel intellectuel possède un QI supérieur à 130, sachant que la moyenne se situe à 100 points. Donc TF1 a diffusé les deux premiers épisodes de cette série jeudi dernier. Je vous lis le synopsis. Donc Morgane a 38 ans, 3 enfants, issus de 2 ex-maris. Seule, elle doit mener de front sa vie familiale dans des conditions difficiles. Mais elle est HPI, haut potentiel intellectuel. Elle déclare 160 de QI et affiche une bonne dose d'insoumission. Elle va voir son destin de femme de ménage chambouler lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police de Lille qui lui propose un poste de consultante. Seulement Morgane a un problème avec l'autorité. Si l'on regarde les audiences, alors les audiences pour TF1, on va appeler ça le jackpot. En bingo, peut-être pas le jackpot, mais quand même une très très forte audience. En moyenne, durant ces deux épisodes, 9,3 millions de Français étaient devant leur télévision. J'y étais. Et au plus fort des diffusions, l'audience est même montée jusqu'à 9,6 millions de téléspectateurs. 9,8 pardon, millions de téléspectateurs. Pour TF1, c'est un extraordinairement bon lancement, c'est le meilleur. Depuis 2010, c'est une série qui existe encore, je crois, qui s'appelle Clem. Vous pouvez voir dans cette série alors, les deux principaux acteurs. La première est Audrey Fleurot, que vous avez pu voir pour... Alors c'est elle qui joue Morgane, la surdouée à 160 de QI, on peut parler de douance importante. Vous avez pu la voir dans Le Bazar de la Charité, autre série de TF1. Elle y tenait le rôle de la femme de, pour ceux qui connaissent la vérité si je mens, Patrick Abitbol, dans un rôle totalement différent de celui qu'il jouait dans la vérité si je mens. Également dans Intouchable, qui a été un énorme succès. Et un autre film que j'ai vu, que j'ai vraiment apprécié, qui s'appelait La Délicatesse. Et La Délicatesse, c'était un film issu du roman éponyme, écrit par David Fuenquinos, et donc adapté également de David Fuenquinos et de son frère, dont j'ai oublié le prénom. Le deuxième protagoniste de cette série s'appelle Mehdi Nebou, qui, pour ceux qui l'ont vu, a été déjà remarqué dans une série qui s'appelait Le Bureau des Légendes. Et je rajouterai un troisième acteur que je trouve vraiment génial, que j'adore. À chaque fois que je le vois, je le trouve génial. Il était dans... le film Amélie Poulain, extraordinaire, en papa d'Amélie Poulain, qui voit son nain se balader un petit peu partout sur la planète, Rufus. Je trouve qu'il est toujours aussi présent, malgré le fait qu'il soit peu dans le scénario, à chaque fois qu'il est sur scène, qu'il est devant la caméra, on le remarque, il est vraiment très 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 agréable à regarder, et toujours d'une simplicité extrême. Les critiques. Alors les critiques sont plutôt positives, j'en ai lu quelques-unes qui disent que c'est quelque chose de très intéressant, un film vraiment de qualité, qui montre ce qu'est un haut potentiel, qui montre comment est-ce qu'une femme peut avoir, grâce à la chance, de fouiller partout, de fouiner partout, de ne pas pouvoir dormir si elle ne peut pas résoudre un problème, de pouvoir faire des calculs très rapidement, enfin bref. Les critiques sont plutôt assez bonnes. Alors les critiques professionnels. Les critiques du côté monde haut potentiel sont un petit peu plus réservées. Voilà, alors je vais maintenant vous donner mon avis. J'ai la chance, si on peut le dire, de faire partie de ce monde. Voilà. HPI. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. 4 ans. Enfin, 3 ans. Ça a été un tsunami intérieur. Alors, oui, un HPI écoute de la musique, voire même de la musique très forte. Quoi qu'il fasse, qu'il marche, qu'il aille courir, qu'il travaille, qu'il se repose, il a besoin de musique. Oui, j'ai besoin de musique. Donc, cette spécificité de l'avoir avec son casque, je crois, si je me souviens bien, avec le drapeau anglais de chaque côté, avec une musique forte, pour pas vraiment pour s'extraire du monde, mais c'est pour avoir partie du cerveau qui est alimentée par des ondes très très positives. Oui, un HPI peut faire le clown. Par exemple, la scène dans laquelle elle prend deux baguettes chinoises au moment de manger, je ne sais plus, c'est des nems, des sushis ou autre chose, les mettre dans la bouche pour faire le clown, oui, ça, oui, 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 oui. Je ne parlerai pas de la part de tous les HPI, mais en ce qui me concerne, je suis et je resterai à vie, je pense, un adolescent. Alors, de temps en temps, c'est pas toujours évident. Il faut être capable de faire le... attention à ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est là où c'est très important de le savoir, d'avoir été testé, pour pouvoir se rendre compte que certains de nos comportements sont dus à cette différence cognitive que certains ont. Oui, 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 mon cerveau, le cerveau, part en courant, et je le suis. Tout à fait d'accord sur cette expression qu'utilise et que dit Audrey Fleurot, enfin Morgane, lorsqu'on lui demande comment elle fonctionne, son cerveau part en courant et elle l'essaye. Je dis bien, elle essaye de le suivre. J'ai pour habitude de dire que dans ma tête, j'ai 2, voire 3 hamsters qui tournent en permanence, mais qui n'arrivent pas à s'arrêter, enfin qui ne s'arrêtent pas. J'essaye de les ralentir. Par moments, je commence à y arriver. Néanmoins, il est très 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 difficile, voire même impossible de l'arrêter. Ce cerveau a besoin de travailler H24. Oui, encore oui. Les associations d'idées, parfois étonnantes, ça existe. Alors vous avez trouvé que je parle beaucoup de moi. Bon, mais c'est ma chronique, et je fais ce que je veux. Idée un peu originale, voire étonnante, voire complètement inattendue pour certains. Il y a quelques mois, quelques années, j'ai eu une idée de créer un jeu. Mon idée de départ était de permettre aux Français, jeunes ou moins jeunes, amateurs de sport américain, d'apprendre l'histoire et la géographie américaine via les noms de franchises américaines, que ce soit de basket par la NBA, de foot américain par la NFL, de hockey sur glace, la NHL, ou de baseball, MLB. Prenez par exemple Los Angeles, tout le monde sait où c'est. Miami, tout le monde sait où c'est. Quand on commence à arriver à New York, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que New York, Washington, Philadelphie, c'est un peu compliqué à mettre? Mais prenez une ville comme Milwaukee. Très compliqué à placer. L'idée du jeu était de faire connaître ces villes autrement que par le sport, mais par le côté géographique. Et le côté histoire est tout simplement... je vais prendre un exemple des San Francisco 49ers. Désolé, hein, je m'écarte du sujet. Mais voilà, ça, c'est une des caractéristiques des gens dits HPI. C'est de partir dans tous les sens. Ouais, c'est ce qu'on appelle un petit peu la pensée en arborescence, qui est une des spécificités des personnes AOQI. Donc je reviens sur l'histoire et je vais prendre les San Francisco 49ers. Alors pourquoi 49ers? 1849, création de la ville de San Francisco en pleine ruée vers l'or. Voilà pourquoi San Francisco, qui se trouve dans le Far West, pour ceux qui aiment les westerns, le Far West, c'était l'Ouest lointain, et San Francisco a donc été créé en 1849 par des pionniers qui venaient chercher, faire fortune, en essayant de trouver de l'or. Autre anecdote, ceux qui ont fait fortune ne sont pas ceux qui ont cherché de l'or, mais ceux qui proposaient du matériel pour que ces chercheurs d'or puissent creuser et ainsi essayer de chercher de l'or. On pourrait même faire un pendant, mais là je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais presque sur les premières valeurs Internet en 1997, 98, 99 et 2000, avant l'explosion en vol et le rebond depuis. Une des phrases qui était énormément énoncée sur les marchés financiers était de dire que ce n'était pas les sites Internet qui allaient faire fortune, qui allaient être les valeurs sur lesquelles il fallait investir, mais les fournisseurs de solutions, que ce soit de solutions d'utilisation, de solutions de sécurité, pour comment dire, pour pouvoir, enfin, qui étaient les meilleures valeurs sur lesquelles il fallait investir. Point. Je passe au point suivant. Oui, nous partons dans tous les sens. Tiens, je vais vous donner un exemple. Je pars dans tous les sens. Mais attention, attention. Cette série rigolote au demeurant, intéressante. Je vous dirai ma conclusion, vous verrez. Je suis pas contre. Je trouve juste qu'elle a met un petit peu en exergue, certains clichés qui sont faciles à imaginer. Mais comme dans tout, ok, c'est de la fiction, d'accord, il faut pousser un petit peu le curseur un petit peu plus que la réalité pour que ça se voit à la télé, mais attention, 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 attention. Un QI de 160, oui. Alors statistiquement, si nous prenons la courbe de Gauss, vous savez, la cloche, qui permet de voir statistiquement comment une population est répartie sur tel ou tel ou tel critère. Donc là, prenons le critère du QI. Au plus haut, vous êtes à 100. À 130, vous avez à peu près 2,2-2,5% de personnes qui se situent au-dessus de 130. Donc vous avez 2,5% de la population française ou d'autres populations qui ont un QI supérieur à 130. 160, j'ai regardé, cela représente 0,006% de la population. Un calcul rapide, si vous regardez par rapport à la population française, cela représente entre 3500 et 4000 Français. C'est tout de même assez rare. Donc oui, là, ils ont pris une des spécificités pour la mettre vraiment en exergue. Détestation de l'autorité, je trouve ça un peu fort. Sauf, bien entendu, lorsque la dite autorité repose sur des principes qui ne nous correspondent pas. Autre point, l'image de la calculatrice ambulante. Oui, d'accord, ok. On peut avoir la capacité de faire du calcul mental. J'adore ça. Je suis adepte du calcul mental. Depuis que je suis plus tout petit, j'aime ça. Faire la somme de 4, 5, 6, 7 trucs, d'essayer de diviser par, multiplier par, enfin bref, essayer toujours de trouver la façon de faire le plus vite possible des calculs de plus en plus compliqués. Alors, je ne suis pas au point de dire, et je pense qu'il y a assez peu de monde qui est capable de se dire, voilà, je vais pouvoir faire des calculs de 25 chiffres multipliés par 17 chiffres, j'en fais la racine carrée, et puis ensuite je vais en faire le cube, voilà, ou alors toute autre démonstration d'intelligence qu'on peut voir de temps en temps à la télé, dans les concours du plus intelligent, du plus rapide, du plus que vous voulez, de tout ce qui est un peu sensationnaliste. Là, on est vraiment dans le sensationnalisme. Alors, 160, ce n'est pas mon cas, donc je ne sais pas. Je pense que ces personnes, à ce niveau-là, ont des capacités qui sont assez impressionnantes, qu'on a peut-être du mal à comprendre, qu'on a du mal à appréhender. Néanmoins, ce point méritait, pour moi, d'être soulevé. Alors, au final, qu'en ai-je pensé ? Eh bien, j'ai vraiment bien aimé les deux premiers épisodes. Moi, j'ai juste une petite crainte, c'est que les stéréotypes, comme je vous le disais, nous reviennent en pleine face. Et pour finir, je ferais bien une proposition à TF1. Alors, je les ai déjà contactés, pour être clair, pour leur proposer un projet d'émission. Bon, pour l'instant, je pense que ma lettre est partie très 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 loin, je suis même pas sûr qu'elle soit arrivée quelque part, mon mail a dû arriver dans une poubelle, dans un spam, dans je ne sais quoi, bref, on sait jamais. L'idée était assez simple, c'était de proposer de travailler sur de proposer des concerts historiques, intéressants, bon, qui me plaisent, et de travailler autour, de faire comme si nous étions les quelques présentateurs, voire le producteur, les présentateurs, X personnes qui pourraient présenter l'émission. nous avions pu participer à ce concert et que nous rentrions dans la salle avec toute la foule, quelque chose qui ne se fait plus actuellement, qui n'est pas très Covid compliance, mais ça, pour l'instant, on s'en fout. Nous rentrons dans la salle et nous échangeons. Tout ce que nous avons entendu sur le concert, tiens, il y aurait peut-être tel titre, ah oui, il y aurait telle personne, peut-être tel invité, on va se retrouver à telle place, il paraît que là, c'est grandiose, on va vraiment s'éclater, vous avez bien aimé le disque. Bref, un petit peu des discussions autour de l'artiste, du concert, et de tout ce qui peut se passer autour des différentes chansons qui ont pu être écrites. Pour les quelques premiers concernent Damien Balavoine, William Scheller, j'ai également imaginé Pink Floyd, bon, qui est quand même un groupe mythique, mais également Peter Gabriel, son concert Secret World, qui est un concert juste extraordinaire, avec deux Français sur la scène qui ont participé à cette tournée, qui me donne les frissons à chaque fois que je l'écoute. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et ensuite, en troisième partie, donc première partie c'est de rentrer dans la salle, deuxième partie c'est de vivre le concert, et troisième partie, elle est toute simple. Elle est d'essayer de trouver des personnes qui ont participé au concert, soit sur scène, soit qui ont participé en backstage, dans les coulisses, ou qui étaient dans la salle, pour qu'ils nous donnent leur ressenti suite à la suite de ce concert et ce qu'ils en ressentent encore aujourd'hui, lorsqu'ils réécoutent, j'ose dire de façon un peu pédante, ces moments d'histoire musicale. Alors, vous voyez, on va dans tous les sens. Je reviens à mon idée que j'ai proposée, que je pense proposer à nos amis de TF1. Alors, s'ils nous écoutent, bien entendu, peut-être que TF1 écoute Esprit Occitanie. Je pense que non. TF1 écoute Esprit Occitanie. Maintenant, est-ce qu'ils écoutent la Casa de Bel dans le patchwork? Je ne sais pas. Mon idée, c'est de leur proposer un nom. Pas HPI. HPI, c'est oui, c'est pour faire... comment dire? Faire venir la personne qui ne connaît pas en se disant « Ouais, je vais savoir ce que c'est. » Non, vous ne saurez pas ce que c'est. Vous allez avoir des idées sur ce que c'est, mais vous ne saurez pas ce que c'est. Moi, mon titre, le titre que je souhaitais leur proposer, parce que c'est exactement comme ça que je le vois, c'est Morgan Holmes et Adam Watson. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder, je ne sais plus sur quelle plateforme, peut-être Netflix, Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch, Regardez, et vous allez voir, on est à la limite du même personnage. Je pense que Sherlock Holmes a également un QI qui est juste très très élevé. Alors, il a quelque chose de différent par rapport à Morgan, c'est qu'il est totalement sociopathe. Mais il a la capacité de faire s'imbriquer des informations qui, pour 99,99% de la population n'ont absolument rien à voir. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de la radio. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle Casa de Ebel au sein du splendide patchwork sur la merveilleuse radio Esprit Occitanie. À très bientôt et merci beaucoup.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous lis cette semaine le chapitre 13 du roman « La suerte de matar » de Frédéric Coudron aux éditions « Au diable vauvert ». Juin 2018, campagne de Madrid, Ganaderia Victorino Vega. La veuve de Victorino, Cristina Vega, avait fait dresser une table de déjeuner digne d'un grand restaurant, au sens propre comme au figuré. Les petits plats avaient été mis dans les grands. À notre arrivée dans l'immense salle à manger, le personnel de maison nous avait invités à nous asseoir. Naïvement, j'imaginais que le placement serait libre. C'était ignorer que, dans certains milieux et coins du globe, l'égalité des sexes n'avait pas cours. Les hommes se retrouvèrent donc d'un côté et les femmes de l'autre. La présidence de l'Assemblée avait été donnée à Ortega avec, à sa droite, son apoderado et à sa gauche, le ganadero. Hasard ou coïncidence, Paco était assis à la frontière entre les deux genres. Pour ma part, je me retrouvais face à Cristina Estela Vega, ce qui arrangeait mon enquête, et à côté de Carmen, ce qui ne me réjouissait guère. De là où nous étions, inutile d'espérer participer aux conversations de ces messieurs. Le début de repas fut assez froid, le fait que la maîtresse de maison parle uniquement l'espagnol ne facilitait pas les choses, même si mon collègue frontalier nous traduisait les quelques phrases convenues qu'elle prononça. La maîtresse du matador n'ouvrit même pas la bouche, se contentant de m'envoyer des ondes négatives que je percevais à chacun de ses mouvements, jusque dans le rythme de sa respiration. La fille de la victime, enfin, se débrouillait très bien en français, mais sa timidité la contraignait à en rester au stade des banalités. Moi seule pouvais rompre la glace. D'après ce qu'on m'a dit, vous vous occupez d'une association de protection des animaux, mademoiselle Vega ? Oui, c'est le cas. C'est un peu comme la SPA que vous avez en France. Je m'excuse de vous poser la question, mais cela éveille ma curiosité. N'est-ce pas compliqué de défendre les animaux avec un père, puis un frère éleveur de taureaux de combat ? On me pose souvent cette question. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais c'est la famille. Je ne cautionne pas, mais... D'ailleurs, on me le reproche souvent au sein de l'association. Certains ne comprennent pas que je continue à fréquenter ma famille. Mais que voulez-vous que je fasse ? Je ne vais tout de même pas les renier. Alors, on évite d'évoquer le sujet lorsqu'on est réunis. Dans certaines familles, on évite de parler religion et politique. Dans la nôtre, on évite la corrida. Du moins quand je suis là. Je comprenais parfaitement. Dans ma propre famille, la politique était un sujet tabou depuis une soirée de la Saint-Sylvestre au cours de laquelle mon père et l'un de mes cousins en étaient presque venus aux mains, l'un soutenant Sarko, l'autre Hollande. Depuis, ils s'étaient réconciliés. Par ailleurs, en discutant avec Stella Vega, je rejoignais le point de vue de José Ramón. Cette fille était incapable de faire du mal à une mouche. Je poussai un peu le bouchon pour en être totalement persuadée. Je haussai le ton pour me faire entendre du clan des hommes. « Oui, je comprends. Moi, par exemple, je suis absolument contre les armes à feu. Et mon père, lui, collectionne les armes. Eh bien, nous évitons le sujet. » J'observais les réactions de l'Assemblée, sans rien lire de particulier sur les visages. Si un collectionneur d'armes anciennes s'était trouvé à la table, il aurait sans doute réagi, au moins par un rictus ou un mouvement de sourcil. Là, rien. Je replongeai le nez dans mon assiette. Puis, la glace étant rompue, la discussion se fit plus légère avec Stella Vega et sa mère. Et alors que nous parlions de nos voyages passés, je tournai la tête vers Ortega, pour constater qu'il me fixait. Dans ses yeux, le désir se lisait de façon évidente. Cela n'avait pas échappé à Carmen, qui se leva et quitta la pièce en claquant la porte derrière elle. Son attitude étonna Cristina, qui m'interrogea par l'intermédiaire de Paco. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Je ne sais pas. C'est une de vos amies ? Une collègue ?»« Ah non, pas du tout. C'est une amie d'Ortega. Mais vous ne la connaissez pas ?»« Non, c'est la première fois que je la vois. » Puis, se tournant vers sa fille, « Tu la connais, toi ?» Stella parut gênée. Elle marqua une hésitation avant de répondre « Oui, un peu. Je l'ai déjà vue 2 ou 3 fois en soirée avec Manuel. » L'embarras de la jeune femme éveilla ma curiosité. « Il s'est passé quelque chose de particulier lors de ces soirées ?» Elle hésita de nouveau. « Non, rien de spécial. » Je notai cette réaction étrange dans un coin de ma tête, en me promettant d'y revenir plus tard. Et je n'eus pas à attendre bien longtemps. Le repas terminé, je sortis pour fumer une vogue. Stella me rejoignit. Vous fumez aussi ? Eh oui, j'ai pas mal de défauts. Elle alluma une Marlboro et tira deux ou trois lattes avant de prendre la parole. Sa voix tremblait légèrement. Elle n'était pas à l'aise. Je ne pouvais pas trop parler pendant le repas parce qu'il y avait ma mère. Elle ne parle pas le français, mais elle le comprend très bien. Je la regardais, interrogative, l'invitant à poursuivre. « Je ne vous connais pas, mais j'ai envie de vous faire confiance, Lise. Vous pouvez. Et puis, je veux par-dessus tout qu'on retrouve l'assassin de mon père. Je l'adorais, vous savez. Je n'en doute pas une seconde. » Une larme coula sur sa joue. Elle était émue, elle ne jouait pas la comédie. Je serrai son bras pour la réconforter. Elle se dégagea aussitôt, de peur d'être vue. « Dites-moi, mademoiselle Vega, vous pouvez me faire une totale confiance. Vous me promettez que vous n'en parlerez à personne ? Vous avez ma parole. » Elle tira de nouveau sur sa cigarette, séchant ses larmes de l'autre main. Manuel a, comment dire, des mœurs particulières. C'est-à-dire, il aime les femmes. Oui, j'ai cru comprendre cela, mais ce n'est pas un crime. Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai aucun doute sur son innocence. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Elle recula un instant. Je ne sais pas si je dois vous en parler. Après tout, ça n'a peut-être pas d'importance. Dans une enquête, tout a de l'importance, même le plus petit des détails. Elle inspira une bouffée d'air. Elle était blême. Elle se lança enfin. Très bien. Il y a 2 ans, je suis devenue la maîtresse d'Ortega. Le matador tombait de nouveau au plus bas dans mon estime. La pauvre gamine avait moins de la moitié de son âge. Quel salopard ! Quel porc ! Me dis-je. J'avais toujours considéré Manuel comme un membre de ma famille. Je l'appelais Tio quand j'étais petite. Tio, c'est comme tonton en français. Bref, je n'avais jamais imaginé ça. Mais en grandissant, je me suis sentie irrésistiblement attirée par lui. Sexuellement, je veux dire. Je n'ai jamais rien envisagé de sérieux vu la différence d'âge. Vous me promettez vraiment de n'en parler à personne ? Ma mère et mon frère deviendraient fous s'ils savaient. Je vous l'ai dit, vous avez ma parole. Je vous fais confiance. Personne n'est au courant ? Nous avons pris toutes les précautions. D'ailleurs, ça ne s'est pas passé en Espagne, mais en France, à Dax, pendant la feria. Les Victorino Vega n'y étaient pas, et ça s'est passé dans un hôtel sur la côte. Personne n'a donc pu nous voir, et Manuel n'est pas du genre à se vanter de ses relations. Donc, personne ne sait. Personne, non. Enfin, si. Carmen, c'est la seule. Comment ça ? Comment vous dire ? J'ai honte. Dites, je ne vous jugerai pas, promis. Eh bien, voilà, nous étions à 3. Vous étiez à 3 ? Oui. J'avais toujours fantasmé à l'idée de le faire avec une femme. Nous avions déjà flirté avec Ortega et je lui avais parlé de ce fantasme. Alors, quand il m'a proposé ce trio, l'alcool aidant, j'ai sauté sur l'occasion. Carmen me plaisait, il me plaisait, ça s'est fait comme ça. J'ai du mal à l'imaginer partager Ortega. Elle a l'air d'être d'une jalousie maladive. C'est le cas, mais elle est soumise à Ortega. Elle accepte tout de lui. Alors, quand il lui a demandé de faire un plan à 3, elle n'a pas refusé. Au début, ça semblait lui plaire. Nous avions beaucoup bu, elle était excitée. Vous dites « au début », ça s'est mal passé après ? Tant que nous étions que toutes les deux, et qu'Ortega se contentait de nous regarder, tout allait bien. Mais dès qu'il a commencé à me caresser, elle a complètement changé de comportement. C'est-à-dire ? Elle s'est refermée sur elle-même, elle s'est mise dans un coin de la chambre, assise par terre. J'étais occupée avec Manuel, alors je pensais qu'elle nous regardait, que ça l'excitait. Mais d'un seul coup, elle s'est levée et tout en se rhabillant, elle a commencé à me traiter de tous les noms et à me dire qu'elle aurait ma peau. Ortega s'est mis à lui hurler dessus. Elle est partie en claquant la porte, exactement comme tout à l'heure. « Et vous êtes restée avec Ortega ?»« Non. » Je me suis rhabillée aussi et je suis partie. Après cela, je n'ai plus jamais couché avec lui. Je faisais ça pour le fun, je n'avais pas de mauvaises intentions. Ortega a essayé de vous reconquérir ?
Non. Je pense qu'il a compris que nous avions fait une erreur. Depuis, nous n'en avons jamais reparlé. Nous faisons comme s'il ne s'était rien passé. Vous pensez que Carmen aurait pu en parler à quelqu'un ? Franchement, non. Elle est complètement dingue d'Ortega. Elle aurait trop peur qu'il lui en veuille à mort. Par contre, le soir où mon père a été assassiné, je devais normalement être seule à la maison, comme chaque jeudi. Chaque jeudi, mes parents allaient au théâtre à Madrid. Ils avaient un abonnement. Et chaque jeudi, mon frère suivait des cours de guitare à 20 km de la maison. Sauf que ce jour-là, nous avions prévu, de longue date, de faire les achats de Noël avec ma mère et Davide. Mon père détestait ça. Il n'aimait pas les grands magasins. Ça lui donnait le tournis. Il est donc resté à l'hacienda. Carmen savait que vous étiez seule à la maison les jeudis ? Oui, je le lui avais dit. Je me sens réellement coupable. Je n'aurais jamais dû coucher avec Ortega. Notre discussion s'interrompit brusquement. La mère de Stella venait de nous rejoindre. Jamais je n'avais envisagé de placer Carmen dans la liste de mes suspects. Stella m'obligeait à revoir ma position. La belle Andalouse avait un mobile. L'un des mobiles les plus puissants de l'histoire du crime, avec l'argent. La jalousie. Se pouvait-il qu'elle ait décidé de se débarrasser de sa jeune rivale amoureuse ? Le père, Victorino, se serait juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je devais en avoir le cœur net. Pour cela, je m'isolais dans les prés en fumant vogue sur vogue. Là, à l'écart, je composais le numéro de téléphone portable du lieutenant-colonel Armando Calderon. « Lise, que puis-je vous faire ? Vous savez que j'accompagne Ortega dans ses déplacements ? Oui. Lors de ses déplacements, j'ai rencontré sa maîtresse, une certaine Carmen. Oui, Carmen Chavez, une très jolie femme. » Ayant des vues sur moi et s'apercevant de ce qu'il venait de dire, il compléta immédiatement son propos. Beaucoup moins jolie que vous, bien sûr. Merci, mais de rien, toute la joie est pour moi. Cette Carmen a-t-elle été entendue lors de l'enquête ? Non, pas du tout. Dans ce cas, comment connaissez-vous son nom ? Tout le monde connaît Carmen et tout le monde sait qu'elle est la maîtresse d'Ortega. Il suffit de lire la presse. Vous la soupçonnez ? Peut-être. Elle avait apparemment menacé la fille de la victime. Stella Vega ? C'est cela. Bah, pourquoi ? Je repensais au serment que j'avais fait à Stella. Je m'étais engagée à ne rien révéler de sa relation avec Ortega. Je ne sais pas. Voulez-vous que je l'interroge ? Je préférerais creuser un peu la piste avant. Nous n'avons rien de concret. D'accord, je ferai tout pour vous, mais ne prenez pas des risques. Vous savez où elle habite ? Elle travaille ? Je ne sais pas où elle habite, pas loin de Madrid, c'est sûr, peut-être à Madrid même. Par contre, elle dirige une école de danse, c'est une danseuse exceptionnelle. On la trouve où cette école ? À Madrid ? Attendez, je regarde sur le net. Ah, voilà, Calle Libertad, 6 Calle Libertad. Je raccrochai après avoir remercié chaleureusement le flic. Je profitais d'être à l'écart du groupe pour consulter mes mails sur mon téléphone. Je n'avais pas encore reçu de réponse à la petite annonce passée sur le site de vente d'armes anciennes. En même temps, je me trompais peut-être, car j'imaginais mal Carmen Chavez, féminine jusqu'au bout des ongles, collectionner des revolvers de cow-boy. Pour autant, il fallait que j'en apprenne plus sur elle. L'après-midi, nous devions aller visiter la ganaderia Torrenuevo. Je décidai d'y envoyer Paco pour prendre quelques images et de prétexter une fatigue intense pour rester sur Madrid. Avec une idée derrière la tête, visiter l'école de danse de la belle Andalouse. Je n'eus pas de mal à convaincre Ortega et les autres. À 15h, ils me déposèrent à l'hôtel et repartirent faire la tournée des éleveurs. Voilà, chers auditeurs, si vous voulez découvrir la suite, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine à la même heure. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour Android. À très bientôt!